On accueille dans le studio de Radio PFM plusieurs membres du collectif Arageois pour le climat. Denis Bonnel, bonjour.
Bonjour.
Et Jean Pasqualini, bonjour.
Bonjour.
Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore ce collectif, comment vous le présenteriez, comment vous le définiriez ce collectif Arageois pour le climat, Jean ?
Oh ben, son intitulé parle de lui-même, hein. Donc il s'agit de regrouper au maximum des forces associatives et citoyennes qui veulent agir contre la dérégulation du climat, tant au niveau global, donc par exemple en participant aux marches, aux différentes initiatives de rapport de force vis-à-vis des États, tant au niveau global qu'au niveau local ou même quotidien.
Denis, peut-être ?
Oui, donc il s'agit ensuite à la fois d'informer le public, puisqu'à une époque, on a fait des conférences, donc de participer à des marches, c'est une manière d'agir, de se rendre visible, de permettre à la population d'exprimer son désaccord avec la lenteur avec laquelle l'action avance. Et puis également, nous avons des contacts avec les élus pour discuter avec eux, essayer de les encourager à aller dans la bonne voie, les élus locaux.
Alors ce collectif, si je ne dis pas de bêtises, il a été créé en 2018. Il y a quand même une dynamique importante avec un mélange aussi de personnes, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Comment vous voyez un petit peu la dynamique du collectif Arageois ?
Oh bah je crois que ces caractéristiques-là sont restées. Après, il y a quand même eu une interruption ou une suspension délicate pendant la période de la pandémie Covid. Hein, ça, tout le monde... Et puis, il faut noter aussi des grandes interrogations qui sont communes à tous les mouvements sur la question climatique. Hein, c'est comment agir, comment être efficace, comment arriver justement, vu l'inertie des directions politiques des États, comment arriver à établir un rapport de force qui nous fasse avancer. Ça, c'est compliqué.
Effectivement, quand on parle des jeunes, on a l'impression en ce moment que les jeunes au niveau national, international, se manifestent beaucoup par des initiatives très spectaculaires qui leur permettent d'avoir un écho médiatique alors qu'ils sont que quelques-uns à y participer directement. Je pense qu'on est assez complémentaires parce que on essaye d'organiser des modes d'action qui peuvent rassembler le plus grand nombre. Et donc, c'est bon de montrer que le climat est à la fois quelque chose qui peut vraiment désespérer certains, parce que c'est vraiment très grave. Et donc, ceux-là pensent qu'il faut des modes d'action extrêmement importants. Et puis, mobiliser de manière très large pour bien montrer qu'il ne s'agit pas du tout d'une cause minoritaire, bien au contraire.
Alors, ce samedi, vous appelez, comme de nombreux collectifs climat en France et dans le monde, à marcher pour le climat. Le rendez-vous, hein, c'est ce samedi 12 novembre, 14h30, place Foch, hein, place de la gare à Arras. Donc ça, c'est organisé en marge pour exercer une pression populaire sur la COP27. C'est ça là, un peu la démarche, hein.
Oui, c'est évidemment dans le contexte de la COP27 qui s'est ouverte ce week-end, hein, donc en Égypte à Sharm el-Sheikh. En même temps, on n'a pas une attente particulière vis-à-vis de cette COP27. D'ailleurs, un fait significatif, hein, Greta Thunberg n'ira pas à la COP27. Elle a déclaré que c'était une opération globalement de greenwashing des États. Elle demande la libération des emprisonnés politiques d'opinion en Égypte. Et elle dénonce aussi, et nous aussi, les sponsors de cette COP27. Il faut citer Coca-Cola, le plus grand producteur mondial de plastique, dont à 99% produit par les énergies fossiles. Il y a Microsoft, il y a IBM, enfin, Siemens, etc., qui sont les sponsors de cette COP27. Donc on n'en attend pas non plus grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire dans un tel contexte. Il faut profiter de cette situation pour essayer de manifester la volonté des citoyens.
Denis ?
Alors des COP qui seraient efficaces, c'est évidemment nécessaire parce que le climat est une question mondiale. C'est-à-dire que si nous faisons des efforts pour avoir moins d'émissions elles vont nous bénéficier un petit peu, elles vont bénéficier à tous les pays du monde, donc c'est notre responsabilité. Et inversement, pour que le climat ne se modifie pas trop chez nous, il faut aussi que partout dans le monde, il y ait des réductions d'émissions qui aient lieu. Donc c'est bien une question mondiale, et le principe des COP en soi, il est bon. C'est-à-dire que chaque pays ne va pas s'engager tout seul, mais si dans un endroit où on voit bien qu'il y a des négociations pour que tout le monde s'engage en même temps, bah là, ça peut le faire. Donc le principe est bon. Ce qui s'y passe, malheureusement, est toujours très décevant. Mais nous-mêmes, nous maintenons ce principe puisque nous répondons à un appel mondial. Donc cette marche du 12 novembre, elle est importante parce qu'elle aura lieu partout dans le monde le même jour, au même moment. Et donc c'est pour ça qu'il est important d'y participer. Alors par ailleurs, elle est également coordonnée au niveau régional parce que c'est utile avec des voisins. Et donc on sait que dans d'autres villes ou communes de la région, il y aura également des actions intéressantes.
Oui, notamment, je pense qu'il y a des gens du Ternois qui vont rejoindre la COP, enfin la marche climat, pardon, à Rajoy, c'est ça ?
Il y a une marche qui est organisée hein, par à partir de, je ne sais plus, dans le Ternois, oui, effectivement, à Saint-Paul-sur-Ternoise, autour de la question de la voie verte là, qui doit être transformée en piste cyclable de manière aberrante, quoi, hein. Donc ils ont leur propre marche le matin. Alors peut-être qu'un certain nombre, comme d'habitude, viendront l'après-midi à Arras. Ça, c'est possible. Je voulais revenir sur la question des COP. Hein. On insiste sur le fait que c'est la 27e. Hier, à la télévision, il y avait un documentaire qui montrait très clairement que les États étaient au courant exactement des problèmes de basculement climatique depuis 50 ans. Voilà. 27e COP. La COP de 21. 2015 à Paris a fixé l'objectif de rester en deçà de l'augmentation de 2 degrés de la température moyenne par rapport à l'ère pré-industrielle, voire d'être si possible en dessous des 1,5. Les États se sont engagés sur cet objectif, mais l'accord n'a pas été fait de manière contraignante. Et quand on fait le bilan des engagements des États, on s'est aperçu que la dynamique sur laquelle ils étaient, c'était une augmentation de plus 3 degrés. Du coup, ils ont essayé de rattraper les choses dans les COP suivantes, en particulier la COP de Glasgow, en demandant aux États d'accentuer leur plan. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est que ça donne quasiment rien. Le GIEC a fait en 2018 un rapport spécial sur la question des 1,5 degré, où il estimait que sur la période 2010-2030, il faudrait baisser les émissions de gaz à effet de serre de 45%. Or, l'ONU, je dis bien l'ONU, a fait le bilan de toutes les actions menées par les États en renforcement de ce qu'ils avaient dit à la COP 21 à Paris. Et on est sur une dynamique, sur la période 2010-2030, d'augmentation des gaz à effet de serre de 10,6. Donc le GIEC dit qu'il faut faire moins 45% d'émissions de gaz à effet de serre. Et là, on est actuellement, à l'entrée de la COP 27, sur une augmentation de 10,6. L'écart est abyssal. Il faut savoir que les émissions, là, on a l'impression de dire ils vont pas assez vite, etc. C'est pas qu'ils vont pas assez vite. C'est que les émissions de gaz à effet de serre sont en constante augmentation. En 2021, l'augmentation des gaz à effet de serre a battu tous les records. C'est phénoménal. C'est incroyable. C'est vraiment de l'écocide.
Oui, alors que la question n'est pas de dire « Ah oui, il faudrait, à la place d'augmenter, réduire de 3% et puis tout irait bien ». Non, il faut arriver à la neutralité carbone. Ça voudrait dire, en principe, que les émissions, elles sont quasi nulles ou pas plus fortes que ce que le système peut absorber, c'est-à-dire assez peu. Et en plus, alors cette inaction, elle est aberrante, y compris même d'un point de vue de soi-disant bon gestionnaire qu'auraient les gouvernements, parce que le problème était connu depuis 50 ans, comme ça a été rappelé. Depuis 50 ans, il y avait eu des actions progressives, ça aurait été assez facile. On aurait déjà depuis longtemps décidé qu'on ne construisait plus de centrales au charbon. Donc celles qu'il faudrait fermer aujourd'hui, ça serait que des vieilles et tout le monde serait d'accord. Ça serait facile de les fermer. L'isolation thermique des bâtiments. On nous dit aujourd'hui que c'est pas possible d'accélérer parce qu'il n'y a pas assez de gens formés. Il n'y a pas assez d'artisans, de compagnons qui savent bien faire ça. Si on s'y était mis depuis 30 ans, parce que tout le monde ne passe son temps à dire qu'il n'y a que des avantages, aucun inconvénient à faire l'isolation thermique des bâtiments depuis 30 ans, et personne ne le fait. Maintenant, on voit effectivement, pour soi-disant tenir toujours les mêmes objectifs, on nous annonce des objectifs mirobolants comme quoi d'ici 2030, d'ici 2035, on aura énormément progressé. C'est-à-dire qu'ils prétendent qu'ils peuvent le faire en un temps très court, alors que quand il y avait encore le temps, on aurait pu étaler ça plus facilement sur une longue période, ils n'ont rien fait. C'est absolument incompréhensible.
Alors vous disiez, vous n'attendez rien de cette COP27, mais bon, quand même, le fait aussi qu'elle se déroule dans un pays africain, ça remet aussi à l'ordre du jour la question de l'égalité ou de faire payer les pays les plus riches. Alors que le dérèglement climatique touche de manière plus forte les pays pauvres. C'est déjà une question intéressante, non ?
Alors effectivement, on peut estimer que le fait que cette COP se déroule dans un pays africain, c'est un symbole intéressant et fort. En même temps, bon, c'est en Égypte, dans le pays du maréchal Sissi, bon, comme j'ai rappelé, qui emprisonne à tour de bras. Effectivement, il y a un principe qui a été affirmé dès 1992 au sommet de Rio, qui est ce qu'on appelle le principe de la différenciation des responsabilités et donc des prises en charge de lutte contre le dérèglement climatique entre le Nord et le Sud, c'est-à-dire la reconnaissance que les pays du Sud, globalement, on va dire les pays pauvres, sont évidemment très peu responsables du changement climatique. Par contre, ce sont les premières victimes, évidemment, du dérèglement climatique. Bon, l'exemple de l'Égypte, peut-être Denis peut en parler.
Oui, puisque en particulier, une des conséquences du réchauffement climatique, c'est l'élévation du niveau des océans. Et ça impacte très fortement les pays qui ont des zones quasiment à 0 mètre d'altitude, c'est-à-dire notamment les deltas. Donc il y a deux très grands deltas qui peuvent être très fortement impactés dans le monde. Il y a le Bangladesh, qui est le delta du Gange et qui est très très menacé. Et il y a le delta du Nil. Le delta du Nil est en Égypte. C'est l'Égypte étant à 95% un désert, c'est seulement une oasis par la vallée du Nil. Ben, le delta du Nil est une très grande partie et il est lui-même menacé en cas de hausse du niveau des océans. Donc c'est un exemple important. Ensuite, c'est pas uniquement les deltas qui, dans les pays du Sud, sont menacés. C'est l'ensemble de leur système agricole, etc. Il y a de très grosses menaces.
Jean ?
Oui, peut-être pour compléter, ce principe de la différenciation des responsabilités, acquis en 1992, il est constamment... il y a des tentatives constantes de sa remise en cause. De COP en COP, les États, évidemment, du Nord essayent de faire pression parce que normalement, les États du Nord devraient avoir des gestes de solidarité importants vis-à-vis du Sud pour qu'ils puissent faire face aux dérèglements climatiques. Et notamment, le Nord s'est engagé depuis 2009 à verser 100 milliards de dollars par an au Sud pour que le Sud puisse s'adapter à la situation. Or, ça devait être fait au minimum en 2020, au maximum, pardon, en 2020. Or, en 2020, il y a 83 milliards qui ont été collectés. Mais en fait, dans la réalité, qu'est-ce qu'il y a eu d'effectivement versé aux pays du Sud ? C'est seulement un tiers. Donc, ces engagements-là, ils ne sont pas tenus par le Nord. Et on voit bien, par exemple, le Pakistan, qui vient de subir des inondations gigantesques cet été à la fin de la mousson, là, c'est terrible, c'est des milliards et des milliards pour sortir de ça. Ben, pour l'instant, il n'y a rien qui est versé au Pakistan par le Nord.
On a l'impression dans certains milieux qui sont restés très longtemps climato-sceptiques, par exemple dans la droite américaine, qu'à un moment donné, ils sont passés à l'idée, oui, finalement, sans doute qu'il va y avoir un changement climatique. Bon, de toute façon, on ne peut rien y faire pour le résoudre à l'échelle mondiale. Ben, finalement, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est nous se trouver un petit endroit tranquille où on ne sera pas impacté. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle du séparatisme. Et à certains moments, on a eu des débats politiques qu'il fallait stigmatiser certains types de séparatisme. Bah, le séparatisme climatique, il faut quand même indiquer qu'il est au moins aussi grave que toute autre forme de séparatisme.
On a parlé du Bangladesh, vous avez parlé aussi du Pakistan. Il sera aussi question du Qatar hein, ce samedi à la marche aragoise, Denis.
Bon, on pourra faire toujours quelques petites allusions parce que c'est vrai que une Coupe du Monde de football dans un pays désertique à grand renfort de stade climatisé, ça n'a pas beaucoup de sens. Et en même temps, on voit bien à quoi ça correspond. C'est donc un pays qui ne vit que par l'exportation de gaz naturel, donc énergie fossile qui est tout à fait dangereuse pour le climat, et ensuite qui cherche à recycler cet argent, non pas intelligemment dans une transition vers des énergies renouvelables, vers l'aide aux pays qui en ont besoin, vers des solutions pertinentes, mais qui veut avoir son soft power, son influence, et une grande partie de l'influence qu'il cherche à avoir, c'est en s'achetant des clubs de sport, et en particulier pour le cas du Qatar, le Paris Saint-Germain. On ne voit vraiment pas quel sens ça a en ce qui concerne l'intérêt général que de mener ce genre de politique. Donc des gens qui s'enrichissent grâce aux énergies fossiles, ils ont quand même une responsabilité tout à fait particulière et ils devraient utiliser cet argent au bénéfice du bien commun et de la lutte contre le changement climatique. Malheureusement, c'est un peu aux antipodes de ce qu'ils font.
Dernière question, si vous voulez bien, une dernière question qui va nous ramener à Arras. Hein, vous aviez dit que le collectif climat entend aussi dialoguer avec les collectivités locales, mairies, communautés urbaines, etc. Où en est finalement ce dialogue ? Est-ce qu'il est efficace ? Comment vous voyez un petit peu les choses ? Est-ce qu'on demande son avis au collectif climat quand il y a des projets ? Bon, on peut parler du méthaniseur, on peut parler du projet d'hôtel de luxe à Saint-Va ou d'autres projets d'aménagement ?
Alors, disons que le collectif, lui, se situe déjà, c'est une première chose quand même à préciser, il se situe dans une logique de contre-pouvoir. On n'est pas dans une logique d'accompagnement ou de co-définition des politiques, voilà. Donc c'est une logique de contre-pouvoir et donc de mobilisation des citoyens, des citoyennes elles-mêmes pour avoir un rapport de force pour notre objectif qui est lutter contre le dérèglement climatique. Ensuite, dans notre collectif, comme on l'a indiqué, il y a effectivement un groupe qui demande qu'à se renforcer, hein, qui travaille sur les politiques climatiques, en particulier communautaires, la CUA ou des villes ou des villages. Et évidemment, il essaye d'entrer en contact avec les élus et de se confronter aux plans qui sont mis en place. Est-ce que le collectif en tant que tel est souvent invité à participer à je ne pense pas qu'on puisse le dire de manière forte.
Denis ?
Voilà, donc effectivement, ça a du sens à partir du moment où on regroupe quand même des gens particulièrement conscients des questions de climat, qui réfléchissent assez souvent, qu'on puisse participer à un dialogue avec les élus, si c'est possible. En même temps, la notion de contre-pouvoir est essentielle. Je voudrais revenir au début. Donc Jean a rappelé avec raison que Greta Thunberg a considéré que ce qui allait se passer à Sharm el-Sheikh, il y avait une forte chance que ça soit assez décevant et qu'il valait mieux le dénoncer à l'avance. Et puis si jamais on a une bonne surprise, tant mieux. Mais enfin, c'est loin d'être sûr. Assez souvent, je crois qu'il faut avoir des réactions un peu montrant que les situations ne peuvent pas durer. J'ai l'impression qu'en France, par exemple, il y a eu un sursaut citoyen sur les questions de climat quand Nicolas Hulot avait démissionné de son ministère en expliquant que c'était pas possible, qu'il pouvait rien y faire, qu'il se heurtait à une inertie considérable. Et donc des gens qui, pendant un an ou deux, avaient pu penser que des choses allaient se mettre en place, parce que c'était quelqu'un qui était quand même assez connu, assez populaire, qui prenait ce ministère, qui avait un rang assez élevé dans la hiérarchie ministérielle et que les choses allaient pouvoir bouger, ça s'enlisait. C'était la bonne chose à faire que de démissionner. Il est possible que ça ait un peu contribué à ce qu'un grand nombre de citoyens se rendent compte, mais dans le système tel qu'il est, on ne peut rien changer, donc il faut vraiment jouer un rôle de contre-pouvoir et essayer d'influencer les choses de cette manière-là, plutôt que de croire que d'être associé trop de l'intérieur, c'est le plus efficace. Parfois, c'est vraiment l'inverse.
Ouais, je voudrais compléter par une chose qui montre aussi les difficultés qu'on peut avoir en tant que collectif vis-à-vis soit de collectivités locales ou même de l'État. Cette marche que l'on organise le samedi 12 novembre, on doit la déclarer en préfecture. On doit demander l'autorisation, on dépose un parcours et on demande son autorisation. Les précédentes marches, alors les premières, on n'a eu aucune difficulté pour le parcours. Le parcours centre-ville, voilà, se terminer devant le beffroi, etc. Et les précédentes marches, on a eu des tas de problèmes. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de l'État, donc la préfecture, et en accord avec la ville d'Arras, semble-t-il, pour faire en sorte que nos manifestations se déroulent de manière périphérique par rapport au centre d'Arras. On n'a rien évidemment contre la périphérie d'Arras et de ses populations, c'est pas le problème. C'est que aller manifester dans grands boulevards où on croise que des voitures et pas de gens, ça n'a aucun intérêt. Donc la dernière fois, il y a eu de multiples propositions qu'on a faites successives après que notre parcours ait été refusé. Et donc on nous a fait passer par les boulevards. Et arrivé à la Grand Place, nous on a dit, on les avait prévenus au départ, c'est que nous on ne suivrait pas le parcours périphérique. Et donc, on resterait sur place, à un endroit particulier. Voilà, on bloquerait, quoi, en fait. Et donc, sur la base de cette affirmation, la préfecture a accepté qu'on puisse entrer dans la Grand Place jusqu'à l'endroit de l'entre-deux-places, mais pas plus loin.
Alors voilà. Là, pour samedi, alors comment ça va se passer?
Alors pour samedi, justement...
Il y a le festival de films, il y a le marché de Noël qui se met en place.
Voilà, on peut trouver des tas de raisons pour que notre marche n'aille pas au centre-ville. Nous, on a déposé un parcours très simple. On part de la place de la gare, on descend la rue Ernestal, enfin Gambetta, Ernestal. Là, on va jusqu'à la Banque de France, on tourne à droite, rue de Lanssorne. Et on termine devant le beffroi. Voilà. Franchement, est-ce que ça va déranger qui que ce soit? Personne. Nous, c'est le parcours qu'on dépose. On va voir. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. On l'a déposé déjà depuis une semaine à peu près.
Sachant que le droit de manifester est quand même un droit absolument fondamental en République française. Et donc, à la limite, s'il peut y avoir des petits aménagements de détails pour des raisons objectives et valables, ça peut se négocier. Mais le droit de manifester, c'est aussi le droit de manifester de manière visible. Et donc là, on sera intraitable là-dessus.
Denis Bonnel et Jean Pasqualini, membres du collectif Arageois pour le climat. Ils étaient au micro de Radio PFM. C'était lundi après-midi. La marche pour le climat à Arras, c'est ce samedi 12 novembre. Rendez-vous à 14h30, place de la gare, place Foch.